Il y a une chose qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui est une réalité bien malheureuse. C'est que les hommes sur la terre depuis l'éternité cherchent à vivre sans Dieu. Et c'est ce que nous étions chacun pour notre part. Nous vivions sans Dieu. L'apôtre Paul le rappelle aux Éphésiens. Et nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire des hommes sans loi. Et à cause de cela, nous étions poussés à laisser nos mauvais désirs contrôler notre vie. Et la conséquence d'une telle façon de vivre, c'est que nous accomplissions les volontés de notre corps, de notre esprit, et que qui suscitait ces choses-là. Le résultat, c'est que nous méritions de subir la colère de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur, dans son amour, a livré sa vie pour venir jusqu'à nous afin que nous ayons la vie en Jésus. Et si les hommes cherchent à vivre sans Dieu, il y a tout de même une autre réalité. Ils sont à la recherche de ce qui va améliorer leur condition sur la terre. C'est quand même paradoxal. On veut vivre sans Dieu, mais on essaie quand même de chercher ce qui va nous aider à vivre une vie meilleure, à vivre une vie épanouie. Ça, c'est ce que les hommes recherchent. Mais nous savons que le Seigneur a la réponse pour tout changement dans la vie des hommes. Nous voulons vivre sans Dieu, mais nous devons nous rappeler, puisqu'il est l'auteur de la vie, c'est lui qui a la réponse pour à tout changement. J'aimerais lire ce que Dieu va adresser à son serviteur Salomon. Dans Deux Chroniques au chapitre 7. Deux Chroniques chapitre 7, les versets 13 à 15. Voilà ce que le Seigneur, l'Éternel, va dire à Salomon. Le contexte, c'est après la construction du temple, Salomon va chercher la face de Dieu. Il va s'humilier devant Dieu pour demander à ce que le Seigneur intervienne en faveur du peuple s'il venait de pécher. Dieu lui répond en fixant quand même des limites. Ce qui nous rappelle à dire ceci, que dans la vie chrétienne, ce ne sont pas les hommes qui fixent leurs conditions de vie. C'est le Seigneur qui fixe ses conditions. Et nous pouvons en lire ceci. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. Voilà la parole que Dieu a adressée à son serviteur Salomon. Salomon qui, après avoir construit le temple et la maison du roi, va chercher la bénédiction de Dieu. Il demande à ce que le Seigneur ait son regard sur le peuple, Il connaissait bien Salomon, il connaissait bien le peuple, ce peuple au coured, voilà, ce peuple qui était parfois obstiné, ce peuple qui de temps en temps va à oublier d'où le Seigneur l'a tiré, ce peuple qui va dans son orgueil faire des choses qui sont contraires à ce que le Seigneur lui avait dit. Salomon avait la responsabilité de gouverner ce peuple-là. C'est Dieu lui-même qui avait choisi Salomon pour qu'il gouverne ce peuple. Et il se retrouve là, Salomon, et avant qu'il puisse entraîner ce peuple, il va même chercher à ce que Dieu lui donne de l'intelligence et de la sagesse, parce qu'il se sentait, tout petit. Il ne se sentait pas à la hauteur, parce que la charge était importante. Connaissant le peuple, Salomon va chercher à ce que le Seigneur lui donne cette sagesse. Et après avoir construit le temple, sachant que le peuple allait se rassembler dans ce temple pour prier Dieu, pour invoquer son Dieu, il va faire cette prière-là, en demandant à ce que la faveur de Dieu soit sur le peuple. Et Dieu, dans sa bonté, va répondre à Salomon en lui fixant quatre conditions: s'humilier et reconnaître leurs péchés, prier en demandant pardon, rechercher constamment la présence de Dieu et changer de comportement. S'humilier. Voilà la première condition. Il ne peut y avoir de réelle prière qui monte vers Dieu, une prière qui touche le cœur de Dieu, une prière qui remue les entrailles de Dieu au point qu'il agisse en notre faveur, s'il n'y a pas ce sentiment d'humiliation devant Dieu. S'il n'y a pas ce sentiment de réaliser que nous ne sommes rien devant Dieu et que c'est par grâce que nous pouvons nous adresser à lui. Si le Seigneur Jésus n'avait pas frayé le chemin, si le Seigneur Jésus n'avait pas livré sa vie, s'il ne s'était pas offert lui-même à la croix, en recevant sur lui ce qui devait tomber sur nous, si le Seigneur n'avait pas accepté que son corps soit maltraité, meurtri, brisé, rejeté par les hommes, s'il n'y avait pas cette souffrance de la part de lui aux yeux des hommes, c'est une souffrance, mais gloire soit rendue à Dieu devant notre Seigneur Jésus, c'était une victoire, parce qu'au travers de cette œuvre-là, il nous a acquis la victoire. Et nous devons, frères et sœurs, pour notre part, alors que nous avons la grâce de Dieu, alors que nous avons pour notre part avoir été éclairés, le Seigneur nous a éclairés, nous étions dans les ténèbres, nous étions embourbés dans le péché, mais le Seigneur, par sa grâce, il nous a tendu la main, il nous a fait sortir de là, il nous a montré le chemin, son amour nous a envahis. Si le Seigneur n'avait pas fait toutes ces choses, qui d'entre nous est suffisant pour s'approcher de Dieu? Qui est suffisant? Aucun de nous. Le Seigneur, connaissant le cœur du peuple, il dira ceci: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, le peuple appartient à Dieu. Le peuple appartient à Dieu. Frères et sœurs, je ne m'appartiens pas moi-même. Nous ne nous appartenons pas. C'est ce que Paul va rappeler aux chrétiens de Corinthe. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez point vous-même? C'est difficile de le croire, c'est difficile de l'accepter, mais c'est une réalité. Je ne m'appartiens pas. L'Église appartient au Dieu vivant. C'est l'Église du Seigneur, c'est l'Église de Jésus. C'est lui qui a livré sa vie et aucun de nous peut prétendre s'appartenir à lui-même. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui se dit appartenir à lui-même, excusez-moi, c'est un orgueilleux. C'est un pur orgueilleux. Parce que nous avons oublié ce que le Seigneur a accompli à la croix. Nous oublions ce que le Seigneur a fait pour nous. Et Dieu rappelle à Salomon, il dira, si mon peuple, il n'a même pas dit si le peuple, si mon peuple, frères et sœurs, nous nous devons de réaliser que si nous sommes là, au milieu, dans ce lieu, si nous sommes là, si le Seigneur nous a fait grâce de nous rassembler ici, c'est parce qu'il nous aime. Oui, le Seigneur nous aime. Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilient, prient et cherchent ma face. Nous sommes dans des temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, et cela n'est pas nouveau, les hommes ne cherchent pas Dieu. Les hommes veulent vivre sans Dieu. Les hommes se croient suffire à eux-mêmes. Peut-être c'est ce que nous étions, chacun pour notre part. Si nous sommes sincères, nous reconnaîtrons qu'avant que le Seigneur vienne à notre rencontre, nous vivions comme si nous étions maîtres de notre propre vie. Nous vivions comme si, voilà, nous étions venus sur la terre par nous-mêmes. Mais l'apôtre Paul nous rappelle, comme il le dit aux Éphésiens, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Et cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Il y a lieu de réaliser que Dieu fixe ses conditions. Dieu fixe ses conditions. Parfois, nous nous approchons de Dieu. Nous humilions devant lui. Nous voulons lui ouvrir nos cœurs. Mais malheureusement, nous sommes bien maladroits et nous voulons montrer à Dieu ce qu'il veut faire. Nous voulons fixer nos conditions. Nous voulons dire à Dieu, voilà, tu es Dieu, mais c'est ce que voilà ce que tu dois faire. Alors que s'il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il dira à Salomon, oui, tu me demandes de bénir le peuple. Tu me demandes de visiter le peuple. Ce n'est pas grave, je le ferai, mais voilà ce que doit faire le peuple. Voilà ce que doit faire le peuple. Frères et sœurs, nous devons avoir ce sentiment-là d'humilité et de dire, Seigneur, au regard de tout ce que tu as accompli à la croix, alors que je ne méritais rien devant toi, au regard de cette vie que tu as livrée, au regard de cet amour qui est venu me confondre, Seigneur, me voici devant toi. Fais de moi ce que tu veux. Il dira le Seigneur, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie en demandant pardon, s'il recherche constamment ma présence, s'il change de comportement, la bénédiction, elle est là. Il dira le Seigneur, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Frères et sœurs, notre pays n'est-il pas mal? Le pays est mal en point, la société va mal. Et c'est de notre responsabilité. C'est de la responsabilité de ceux qui ont été sauvés par grâce. C'est de la responsabilité des rachetés, de chercher la bénédiction de Dieu sur notre pays. Souvenez-vous de ce que Dieu va dire aux Israélites. Il va leur demander de rechercher le bien de la ville où ils ont été menés captifs. C'est impensable. C'est impensable. Comment, Seigneur, un peuple qui nous a submergés, comment un peuple qui nous a servis, comment veux-tu, Seigneur, que je te demande de bénir ce peuple-là. Et pourtant, c'est ce que veut le Seigneur. C'est ce que veut le Seigneur. Il a demandé ça à son peuple, sachant que les conditions n'étaient même pas favorables. Frères et sœurs, souvenons-nous que le Seigneur est à la porte. Et ce que le Seigneur attend de son Église, c'est ça. Mais cela doit d'abord passer par le peuple de Dieu, par vous et par moi, par ceux et celles qui ont accepté de livrer leur vie au Seigneur. Nous l'avons chanté tout à l'heure, il est notre sauveur, il est notre Seigneur. C'est lui notre sauveur, c'est lui notre Seigneur. Il dira le Seigneur, cherchez la face de Dieu. De ce qui ressort de l'entretien de Salomon avec Dieu, qui lui a été révélé, que ce qui devrait être la vraie soif de l'être humain créé par Dieu et pour Dieu, est sa recherche de la face de Dieu. C'est sa recherche. L'homme a été créé par Dieu et pour Dieu. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas vivre autrement, chercher la face de Dieu. Chercher à être dans la présence de Dieu, c'est la meilleure chose. C'est certainement la plus utile et la plus indispensable dans notre vie. Chercher, c'est se donner de la peine pour quelqu'un ou pour quelque chose. C'est s'efforcer de trouver ce dont on a besoin. C'est s'efforcer de retrouver quelqu'un dont on a perdu la trace. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, Jésus nous donne la parabole de la brebis perdue. Il nous donne également la parabole de la pièce perdue. En examinant de près ces deux paraboles, déjà pour la brebis perdue, nous aurions pensé que c'était stupide de la part de ce berger d'abandonner les 99 pour aller à la recherche d'une seule. Humainement, ça n'a pas de sens. Parce que la valeur de humainement, je parle, 99 valent mieux qu'une, n'est-ce pas? Eh bien oui, 99 valent mieux qu'une. Et nous aurions pensé que c'était insensé de sa part de laisser 99 brebis pour aller à la recherche d'une seule. Non seulement il savait que les 99, s'il a fait cela, s'il a pris ce choix, c'est parce qu'il savait que les 99 étaient en sécurité, mais il connaissait la valeur de la seule brebis qui était égarée. Il savait qu'elle était en danger si elle n'était pas au milieu des autres. Voilà pourquoi il ne prend pas de risque, connaissant la valeur de cette brebis à ses yeux. Il va donc à la recherche de cette brebis avec soin, connaissant la valeur. En ce qui concerne la femme qui a perdu sa pièce, vous savez, les femmes israélites, lors de leur mariage, elles recevaient 10 pièces d'argent. Ça, c'était la coutume. Elles recevaient 10 pièces d'argent. Non seulement ces pièces avaient une valeur marchande, mais ces pièces avaient aussi une valeur sentimentale. C'est comme notre bague de fiançailles ou notre alliance. Notre alliance, au-delà de sa valeur marchande, au-delà, elle a une valeur sentimentale, n'est-ce pas? Vous ne me direz pas le contraire, sinon elle ne serait pas là. Ça me rappelle l'alliance que j'ai avec mon épouse. Et à chaque fois quand j'ai cette alliance, ça me rappelle que je ne peux pas faire ce que je veux, déjà vis-à-vis de mon Dieu, mais également vis-à-vis de mon épouse. Je ne peux pas me livrer à n'importe qui, je ne dois plus me livrer à n'importe qui. Il y a une valeur sentimentale. Alors, cette femme qui perd une, vous pouvez dire, c'est pas grave, tu en as encore neuf. Tu en as neuf. Ne te prends pas la tête. Conserve les neuf pour ne plus en perdre une. Mais non, non seulement ces pièces avaient une valeur marchande, mais au regard de cette valeur sentimentale, cette femme, il nous est dit dans cette parabole qu'elle va aller à la recherche. Elle va remuer toute la maison. Elle va fouiller de partout pour chercher cette pièce parce qu'elle avait de la valeur. Jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Tout comme le berger, il va aller à la recherche avec soin de cette brebis jusqu'à ce qu'il la retrouve. Dans notre texte, cherchez la face de Dieu, comme le Seigneur le dira lui-même, c'est se détourner de nos mauvaises voies tout en réalisant ce que Dieu représente pour nous. C'est chercher, se détourner de nos mauvaises voies en me souvenant de l'amour que Dieu a manifesté à mon égard, en me souvenant d'où le Seigneur m'a tiré, en me souvenant ce que j'étais et ce que le Seigneur m'a fait aujourd'hui. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de nous, c'est la grâce de Dieu. C'est le prophète Ésaïe qui va rappeler au peuple ceci. Au chapitre 59, versets 1 à 2. Non, dira Ésaïe, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et écoutez bien ce qu'il va dire. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Qui vous cachent sa face. On pourrait se poser la question que représente la face de Dieu. Il dira à Ésaïe, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. En reprenant ce que dit le prophète, nous pouvons nous remémorer ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lorsque l'homme a désobéi à Dieu. Dans le jardin d'Éden, nous voyons ce scénario. L'homme ayant pris conscience de sa faute, qu'est-ce qu'il va faire de prime abord? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se cacher. Volontairement, il va se priver de la présence de Dieu. C'est ce qu'il va faire. Il va se soustraire lui-même. Ce n'était même pas Dieu qui l'avait fait. C'est parce qu'il, ayant pris conscience de sa faute, ayant pris conscience de ce qu'il avait fait, au regard de ce que Dieu lui avait dit, Adam va se cacher. Dieu qui se promenait chaque soir dans le jardin et qui avait une intimité, une communion avec Adam. Lorsque ce soir-là, le Seigneur se promène, il ne voit pas Adam. Il est où? Adam, et où es-tu? Où es-tu? Et qu'est-ce qu'il dira à Adam? Je me suis caché. Je me suis détourné de ta présence. Je me suis dérobé de ta face. Pourquoi? Il dira le prophète, ce sont vos péchés qui vous cache sa face et vous l'empêche de vous écouter. Cette parole met de la crainte dans mon cœur. Parce que nous prions et nous voulons que le Seigneur nous entende, n'est-ce pas? Quand nous prions, nous nous attendons à ce que le Seigneur exauce nos prières. Lorsque Salomon a demandé à Dieu, il s'attendait à ce que Dieu intervienne. Et Dieu est intervenu. Même si le peuple avait fait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, il s'est tout de même révélé à Salomon. Vous savez, dans sa bonté, et ne pouvant pas cohabiter avec le péché, Dieu a décidé de mettre l'homme hors de sa vue. C'est Dieu maintenant qui prend cette décision. Dans Genèse, au chapitre 3, verset 23, il est dit « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. » Dieu le chassa. Dieu va priver Adam de sa présence. Cela était nécessaire parce qu'il dira lui-même, l'homme ayant pris conscience de la connaissance du bien et du mal, empêchons-le de toucher au fruit de l'arbre de la vie pour qu'il vive éternellement. Mais si Adam vivait éternellement en touchant l'arbre de la vie, il serait pour toujours voué à la perdition et nous également. Voyez-vous, la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est languir après sa sainte présence. Alors que Adam fuyait à cause de son péché, le Seigneur nous invite à languir après sa présence. Conscient des difficultés qu'il doit faire face, c'est David qui souhaitait bénéficier non seulement de la conduite et de la présence de Dieu au quotidien dans sa vie, pour ainsi avoir la force d'affronter les difficultés. Ah, c'est important ça. Dans nos faiblesses, nous avons besoin d'avoir le regard de Dieu pour nous aider dans nos luttes, dans nos combats. Parce que si Dieu n'est pas avec nous dans nos combats, d'emblée nous serons vaincus. Heureusement que le Seigneur nous fait grâce. Et ayant pris conscience de cela, David dira ceci au psaume 27. Psaume numéro 27. Versets 7 à 9. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Verset suivant. Écoutez ce que David va dire. Mon cœur dit de ta part, quoi ? Lisez avec moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Et en réponse à l'appel de Dieu, il dira David, « Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas, point ta face. Ne me repousse pas avec colère, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Mon cœur, avant même que notre cœur aspire à quelque chose, c'est le cœur de Dieu qui insuffle à notre cœur, voilà, cet appel-là. Il dira à David, mon cœur dit de ta part. Mon cœur a pris connaissance de ce que veut ton cœur. Avant même que nous cherchions Dieu, il a fallu que Dieu se révèle à nous. Et il a fallu que Dieu mette dans notre cœur cette aspiration-là. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Vous savez, non seulement c'est dommage pour nous d'attendre d'être confrontés à des difficultés pour faire appel à Dieu, alors que nous pouvons nous épargner bien de problèmes, ou du moins se résoudre plus facilement certains problèmes si nous recherchons constamment la face de notre Dieu. Vous Oui, quel dommage. Parfois, quand tout va bien, et c'est le cas de le dire, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons, quand tout va bien, chacun, on se repose, on se contente de notre salut et on ne fait plus rien. Et pourtant, nous sommes sauvés, merci Seigneur. Et je bénis le Seigneur. Mais même si nous sommes sauvés, nous devons être reconnaissants à celui qui est venu nous arracher pour constamment être devant lui. Il a manifesté son amour à notre égard. Et en cherchant sa face, je manifeste en retour mon amour à son égard. Parce que quand j'aime, je veux toujours être en sa présence. Quand j'aime. Dans nos relations humaines, c'est pareil. Pourquoi voulons-nous nous dérober de cela dans notre relation spirituelle? Vous savez, nous pouvons connaître dans quelle mesure nous cherchons la face de Dieu en observant notre désir de passer du temps dans sa présence. Oui, le temps que je passe dans la présence de Dieu me montre à quelle mesure je cherche, je languis après lui. Le psalmiste dira, je soupire comme une biche qui soupire après un courant d'eau. Mon âme soupire après toi. Comme une biche qui soupire après un courant d'eau, mon âme, elle soupire après toi. Vous savez, trop souvent, nous sommes pressés avec Dieu. Et nous sommes pressés quand nous sommes devant Dieu. Et ça, c'est révélateur qu'il y a quelque chose ou quelqu'un d'autre qui a plus d'importance que Dieu dans mon cœur. Quand je suis dans la présence de Dieu et que je m'empresse, je vide mon sac devant Dieu, mais en retour, je n'attends pas à ce qu'il me parle. C'est révélateur parfois de ce qui a pris place dans notre cœur. Parce qu'on s'attend à ce que le Seigneur nous bénisse, mais on n'attend pas à ce qu'il nous parle. Malheureusement, il y a trop de choses qui encombrent nos pensées, trop de distractions qui sont là pour détourner nos regards et les centrer ailleurs. Mais quand Dieu demande à son peuple de chercher sa face, c'est son désir, et surtout dans ces temps qui courent, que les hommes mettent de côté ce qui les encombre pour le rechercher. Vous savez, en réalité, quand on se dispose à chercher Dieu, c'est sa présence qui nous environne. Et tout devient insignifiant autour de nous quand nous sommes baignés dans la présence de Dieu. Il n'y a pas que les adultes qui doivent rechercher la face de Dieu. Et j'aimerais m'adresser maintenant aux enfants et aux ados, aux jeunes. Même les enfants et les ados peuvent rechercher Dieu. Alors que le roi Josias était encore jeune, il nous est dit qu'il disposa son cœur à rechercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de David. Vous savez, quelle bénédiction dans une famille où les parents cherchent Dieu constamment avec les enfants. Quelle bénédiction dans une église où, le peuple, jeunes et vieux avec les enfants, nous cherchons en permanence la face de Dieu. Quelle bénédiction! Dans 2 Chroniques, au chapitre 20, nous avons là un épisode où Josaphat, dans sa difficulté, va se disposer à chercher l'Éternel et il va publier un jeûne. Il va publier un jeûne. Il va demander à ce que tout le peuple s'humilie devant Dieu. Du verset 1er au verset 4, 2 Chroniques chapitre 20, il est dit ceci: « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec eux les Moanites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: « Une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tsatson Tamar qui est en Guédi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel. Écoutez bien, il n'y a pas que les adultes. Il est dit ici, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, les femmes et leurs fils. Alors, ah, j'aime cette partie. Alors que tout le peuple, jeunes et vieux, rassemblés pour chercher Dieu, tous se sont humiliés, du plus petit jusqu'au plus grand. Quand Dieu voit des cœurs qui s'humilient, il ne peut que se résoudre à intervenir en leur faveur. D'où c'est important, et comme je l'ai dit, et c'est notre aspiration avec mon épouse, que les enfants vivent des choses avec nous pendant les cultes. C'est important ça. Oui, les enfants ont besoin de leur temps pour être ensemble, ce qu'on appelle le culte des enfants. C'est important. Mais rappelons-nous, et je le rappelle encore, à l'origine, le culte des enfants n'était pas fait pour les enfants de chrétiens. Le culte des enfants était fait pour ceux de dehors, pour permettre aux parents de confier leurs enfants et de rentrer pour écouter l'Évangile. Gloire soit rendue à Dieu que nous puissions avoir un temps où nos enfants sont au contact de la parole. Mais les enfants doivent vivre des choses avec nous dans nos réunions. C'est ce que Dieu veut, la parole de Dieu veut. C'est pour cela que nous avons à cœur que de temps en temps, les enfants participent au culte avec nous. Pas uniquement tous les dimanches dans leur coin, mais qu'ils vivent, que les enfants voient les parents s'humilier, même parfois crier à Dieu. Vous savez, ça marque un enfant quand il voit les parents vivre des choses. Ça touche et ça reste. Ce n'est pas qu'ils ne vivent pas des choses dans leur culte. Oui, béni, merci Seigneur. Et je rends grâce à Dieu et prions pour les monitrices, les moniteurs, pour que le Seigneur les bénisse et les inspire. Ils vivent des choses, les enfants, mais ils ont besoin de faire partie intégrante de ce que nous vivons tous ensemble. Verset 13, il nous est dit, « Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. » Alors, même les enfants vont être au bénéfice de la grâce de Dieu. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jehiel, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. La voix de Dieu a retenti alors que les enfants étaient au milieu des parents et tous humiliés devant Dieu. Le Seigneur a parlé. Nous prions que le Seigneur bénisse nos enfants. Oui, que le Seigneur bénisse nos enfants. Qu'ils soient touchés par la puissance de Dieu. Que l'Esprit de Dieu se saisisse d'eux dès leur jeune âge. Oui, que l'Esprit de Dieu se saisisse d'eux. La recherche de Dieu, comme je l'ai dit, je termine avec ceci, se fait dans l'humiliation. C'est Jacques qui nous dira ceci, au chapitre 4, verset 6. Dieu, au contraire, accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous savez, l'humiliation, on a parfois tendance à croire que celui qui s'humilie, c'est le faible. Et pourtant, le Seigneur lui-même s'est humilié, nous dit la parole de Dieu. L'humiliation, pour nous, c'est la clé qui déverrouille l'accès au trône de la grâce de Dieu. Le Seigneur dira à son peuple, « Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, c'était la première condition. Si mon peuple s'humilie, et de l'humiliation viendra ce temps où on abandonne tout entre les mains de Dieu et où on recherche sa face. Sans humiliation, il n'y aura point de recherche de la face de Dieu. Parce que c'est l'orgueil qui prendra le dessus. Et quand l'orgueil envahit mon cœur, on ne voit plus que moi. On ne voit plus que moi. On ne voit même pas ce que Dieu a fait dans ma vie. Quand l'orgueil envahit mon cœur, je ne parle plus que moi. Je parle de moi constamment. Je parle de moi. Je passe le temps à raconter mes soucis, voilà. Mais quand on se rappelle que Dieu, Jésus lui-même s'est humilié, comme Paul va le dire aux Philippiens, il s'est humilié lui-même. Et c'est pour cela que Dieu l'a élevé, pour lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. L'humiliation, c'est la clé qui déverrouille l'accès au trône de la grâce de Dieu. C'est la clé qui déverrouille l'accès à la restauration, l'accès à la délivrance. C'est l'humiliation qui, c'est la clé qui favorise l'unité au sein de l'Église. Frères et sœurs, pendant ce temps de prière, de jeûne et prière, c'est important que nous recherchions la face de Dieu pour que le Seigneur parle à nos cœurs. Nous avons des projets, mais dans ces circonstances-là, ce qui est primordial, ce n'est même pas l'accomplissement de nos projets, mais c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Ça ne me gênerait pas de mettre de côté les projets, même si elles viennent du Seigneur. Ça ne me gênerait pas de les mettre de côté au profit de ce que le Seigneur va me dire. Ça ne me gênerait pas. Parce que je ne suis pas là pour faire ma volonté, mais pour accomplir l'œuvre que le Seigneur voudrait faire au milieu de nous, mais aussi dans cette ville. Alors que ce temps de prière soit pour nous un temps de recherche de la face de Dieu, où le Seigneur dira, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays. Et désormais, il prêtera attention à toute prière faite en ce lieu. Il prêtera attention. Mais ça va déjà par le fait de mettre en application ce que le Seigneur nous demande. Parce que si je ne fais pas ce que le Seigneur me demande, je ne dois pas m'attendre à ce que le Seigneur fasse ce que je lui demande. Est-ce que c'est clair pour nous? Si je ne fais pas ce que le Seigneur me demande, je ne dois pas m'attendre à ce que le Seigneur fasse ce que je lui demande. Parce que je ne suis pas en train là pour lui donner des ordres. C'est lui qui est au contrôle de notre vie. Que le Seigneur nous aide. On va prendre ce chant. Ce chant qui dit, j'ai soif de ta présence. Dans un esprit de prière, nous avons encore du temps devant nous. Et nous voulons déjà nous humilier devant le Seigneur. Nous rappeler qu'il est celui qui contrôle nos vies.